Le patrimoine et la culture ne pouvant pas parler d'eux-mêmes, il faut un intervenant.
En gros, à cette époque, la France est morcelée entre plusieurs seigneurs.
Dès le premier millénaire, on va parler de Candé, mais dans des dialectes différents. Hein. Les Celtes, les Latins parlent de Condat, Condatum, Condéium.
Au-dessus du château d'Èvre, là, on a suffisamment maintenant d'éléments pour voir qu'on a un habitat dense.
Disons qu'avant la Révolution, on comptait 3 chapelles dans la commune.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur La Rage dans l'émission Emmenez-moi. Je suis Rémi Baudin, on est ensemble pour une petite demi-heure pour parler du patrimoine de notre communauté de communes, des lieux à découvrir, les coins à voir. Emmenez-moi à l'arboretum de la Martinière aujourd'hui, l'arboretum de Vénier. Moi j'y suis bien ici, je suis en compagnie d'un invité, incollable sur le sujet, Michel Davaux, bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, est-ce qu'on dit bien l'arboretum de la Martinière?
Oui, alors souvent on dit l'arboretum de Vénier. L'arboretum de Vénier, c'est pas communal, hein, c'est un lieu privé. Par contre, il suffit de me joindre et demander des visites. Je fais des visites guidées à la demande. Pas d'une personne, de petits groupes de 8 à 10 personnes. Donc, vous pouvez inviter, quand vous avez de la famille ou des amis, vous pouvez me contacter pour faire une visite. Alors, je fais une visite guidée qui dure à peu près 1h30.
Et donc le reste de l'année, est-ce que vous pouvez nous donner à peu près vos ouvertures?
Oui.
Dans l'année?
Alors dans l'année, ça commence en avril et il y a un week-end par mois grosso modo et 3 week-ends en octobre à l'époque des frondaisons d'automne où il y a des belles couleurs, dont des érables du Japon, tout ça. Donc c'est le seul mois où il y a 3 visites. Autrement, je suis systématiquement ouvert pour Rendez-vous au jardin, qui est organisé par le ministère de la Culture, qui est toujours le premier week-end de juin.
Oui.
Et puis les journées du patrimoine qui sont en septembre. En général, c'est le deuxième, mais là, je crois que cette année, c'est le troisième. Bon, il suffit de vérifier.
C'est ça.
Bon,
c'est le 21, je crois.
Et je donne les infos à la commune de Vénier, et puis à l'Office du tourisme du Val de l'Indre. Et puis, entre parenthèses, vous avez un blog, vous pouvez aller le consulter. C'est Arboretum Vénier d'un seul tenant.
Vous pouvez le donner.
Haut-et-fort.com. Hein, et haut comme la hauteur et fort comme la force. Et là, je le mets à jour et donc vous êtes informé des visites.
Toutes les informations sont effectivement sur le site de la mairie de Vénier également qui renvoie sur votre, sur votre blog en donnant les horaires, les week-ends d'ouverture. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner déjà la définition d'un arboretum qui a un nom un peu sorcier comme ça?
Oui, alors pour beaucoup de gens, ça ne veut rien dire. J'aurais pu dire parc botanique. Alors, arboretum, le terme exact, c'est collection d'arbres et arbustes. Donc, à l'arboretum, vous verrez surtout des arbres et des arbustes qui ont été plantés depuis les années 67-68. Ça part d'une vieille carrière elle n'était pas abandonnée. On a arrêté l'exploitation en 66.
Oui.
Et donc, tout a été planté par moi-même. J'ai 66 ans. Vous voyez, il y a des arbres quand même qui ont belle allure maintenant.
Donc, qu'est-ce que c'est comme arbre qu'on retrouve ici?
Alors, il y a pas mal de conifères. Il y a aussi des collections d'érables, d'arbres à écorce, puis beaucoup d'arbustes à floraison décorative comme les cornouillers ou à fruits décoratifs comme les fusains. Et puis, en particularité aussi, comme le sol était siliceux et acide, je me suis aperçu que les bambous se plaisaient bien dans ce terrain. Donc, il y a une collection d'une centaine d'espèces de bambous, sinon plus. Alors, c'est connu au niveau français, au niveau de l'Hexagone et même plus loin, à cause des bambous.
Oui.
Hein, j'ai quelquefois des visites. Je suis vice-président de l'Association européenne du bambou, section France. Donc, il m'arrive de voir des Allemands, des Anglais qui viennent visiter pour voir les bambous.
Mais les bambous, il faut beaucoup d'eau pour...
Alors non, les bambous, ça pousse dans des terrains très divers. Mais surtout, c'est la silice qui compte. L'eau, certains bambous aiment beaucoup l'eau l'été, comme en Chine où il pleut pas mal l'été, il fait chaud. Mais ce n'est pas obligatoire. J'ai des bambous du Chili aussi, j'ai des bambous de pas mal de pays. Et je voyage un peu par le monde pour voir les bambous dans leur milieu naturel.
Vous en ramenez parfois?
Ah non, je ne ramène pas parce que je ne veux pas ramener des maladies. Je vais voir in situ sur place. Mais bon, il y a des pépinières spécialisées, surtout maintenant avec Internet, on trouve ce qu'on veut.
Donc là, les bambous que vous avez, vous, ici, quelle est leur appellation?
Il y a des bambous qui sont des phyllostachys. métis qui sont des bambous traçants, il y a les sasa qui sont des bambous traçants à large feuille, et puis après vous avez les fargesia qui sont des bambous des montagnes chinoises qui sont non traçants, que les pandas mangent d'ailleurs.
C'est cela. Hein.
Le Beauval, il m'avait contacté pour le... mais je n'ai pas une quantité de bambous suffisante, ou alors il faudrait que je rase des bambous de l'arboretum.
Vous, vous les donnez aux pandas pendant 3 jours.
Voilà. Ouais. Et puis il y a aussi des bambous du Chili non traçants. Hein. C'est. Disons qu'il y a même des bambous au Chili qui poussent en terrain sec méditerranéen avec des feuilles coriaces. Vous voyez, c'est... Alors bon, ben, je décris tout ça lors de visites guidées. Alors en fait, quand on fait la visite, c'est ouvert l'après-midi, le samedi et le dimanche, de 14h30 à 18h. Et il y a systématiquement une visite guidée à 15h qui dure 1h30 environ.
D'accord, donc là on fait le tour du parc, il fait là, combien d'hectares à peu près?
Et il fait 4 hectares. Donc il y a 2 étangs aussi où il y a des beaux nymphéas.
Hein, c'est... Effectivement, sur internet on peut les voir sur des jolies photos.
Ouais. Voilà, donc ça décrit un petit peu les lieux. Alors, il y a des jeunes qui s'intéressent aux plantes, je pense à la maison familiale de Sorigny. Quelquefois, j'ai des stagiaires qui viennent, qui font des études en paysage. Ça leur permet de voir une quantité importante de plantes à cultiver dans nos jardins.
Et alors, justement, sur l'entretien de ces 4 hectares
Alors, l'entretien, il est, disons, succinct. Je fais pas marcher la tondeuse sans arrêt, donc je fais des allées et je laisse des prairies à monter en herbe haute, et en général je fauche en février, des fois même pas tous les ans, donc c'est plutôt on déambule parmi les hautes herbes avec des allées qui permettent de voir le jardin. Alors c'est accessible aux handicapés, mais pas tout le jardin, mais il y a des allées suffisamment larges pour faire les handicapés moteurs, j'entends.
Donc vous êtes seul
Oui, on a une association qui tourne avec ma femme présidente.
Oui.
Et j'ai quelques amis qui viennent à l'occasion m'aider.
Aux périodes.
Et tous les ans, j'ai un élagueur qui vient pour... on a besoin maintenant, avec le temps, de couper ou raccourcir.
Ah oui, c'est ça, il y a des tailles à faire.
Faire des tailles de formation de certains arbres.
Vous avez des marronniers, j'ai vu, non?
Oui, il y a des arbres. Maintenant, je m'intéresse pas mal au miel. Donc, j'ai des arbres qui sont très mellifères, que les abeilles adorent, comme le févier d'Amérique, le Rus chinensis, qui a une plante chinoise. J'ai l'arbre à miel chinois. Enfin, il y a des marronniers, c'est pas tellement mellifère, mais il y a des châtaigniers aussi, dans le bois, et pas mal d'acacias.
Justement, avec toute cette flore, vous attirez forcément...
Ah bah oui, puis je traite pas, s'il y a des pucerons, il y en a.
Des espèces d'insectes ou d'oiseaux peut-être?
Oui, il y a pas mal d'oiseaux, il y a des chevreuils, il y a un peu de tout.
Il y a des études qui sont faites?
Oui, alors on a fait partie du congrès GESOL avec l'université de Tours, il y a 2 ans maintenant, où il y avait des... Ça s'appelle des fosses pédologiques. Ils avaient fait des trous pour étudier le sol. Et ça faisait... Il y avait des gens d'université qui étaient venus avec des pièges pour faire un recensement des insectes. C'était des espèces de toiles de temps qui piégeaient les insectes. Et puis, ils avaient des petits pièges pour voir les petits rongeurs, la microfaune qui est à l'arboretum. Bon, puis on a des chouettes, on a des chauves-souris, on a beaucoup de choses. Il y a aussi des buses qui nichent dans le bois. Enfin bon, mais nous, on agit assez peu sur la... Il y a des martins pêcheurs autour de l'étang.
Mais non, mais je suppose que vous devez avoir des demandes de certains amateurs.
Ah oui, ça arrive, oui. Mais c'est à la demande. Hein. Si j'ai des entomologistes qui veulent voir les papillons, ils viennent, ils sont les bienvenus. Hein.
Oui, voilà.
Il suffit de me contacter.
Voilà, il faut vous contacter.
Bon, des fois, les écoles aussi, on fait des projets. J'ai une école de Mont qui est venue là. Bon, on a des prêles, ce sont des plantes anciennes qui font comme des tiges. Donc les enfants ont fait des assemblages avec. Ils ont fait des mobiles qu'ils ont suspendus dans des arbres. Ils ont pique-niqué. Bon, après, pour le pique-nique, c'est aléatoire dans nos régions. Mais donc ils peuvent passer la journée à l'arboretum. Hein, voilà.
Thank you.
Alors on est de retour à l'Arboretum de la Martinière de Avesnier. Je suis toujours en compagnie de Michel Davaux, propriétaire des lieux. Alors justement, Monsieur Davaux, on voudrait en savoir plus un peu sur votre parcours et ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui.
Bon, c'est à l'origine, je voulais faire garde forestier et je m'intéressais pas mal aux plantes. Oui. Et puis, je suis diplômé de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, ce qui m'a amené plutôt sur le côté design. Et bon, j'ai travaillé dans le design à Paris, mais j'ai hérité de cette carrière. Oui. En fait, mon père a arrêté l'exploitation de la carrière dans les années 66. Et là, on est parti de zéro, en fait. Le sable étant exploité, après on tombait sur des cailloux, donc ils ont arrêté l'exploitation. Il s'est formé deux étangs avec une digue au milieu, et là on a pu commencer des plantations. Donc j'ai commencé à m'intéresser pas mal aux conifères au départ, donc j'ai planté des conifères, et puis après je me suis aperçu que j'ai planté mon premier bambou, je me suis aperçu que ça leur plaisait comme terrain. Ouais. Et donc j'ai commencé à planter quelques bambous, puis je m'intéressais pas mal au Japon et au jardin japonais, donc j'ai fait la connaissance de plusieurs personnes qui étaient allées au Japon et tout, donc j'ai commencé à planter des arbres d'origine chinoise et japonaise, dont des érables. Donc ici il y a des superbes D'accord. érables du Japon, il y a un très bel exemplaire là.
Oui, parce qu'on est en extérieur, on a vu sur les arbres.
Au niveau de... Il a 35 ans et il vaut vraiment le détour à l'automne.
Et vous avez commencé à l'ouvrir au public
Alors, c'était sur la demande du maire de Vénier à l'époque, M. Talino, dans les années 2000,
oui.
qui avait dit c'est dommage d'avoir un patrimoine arboré comme ça et pas le montrer aux gens.
Oui.
Alors, au départ, moi, j'envisageais pas du tout de faire visiter. Et oui. puis, alors, on a fait un peu un deal. J'ai dit je veux bien ouvrir, mais pas tout le temps. Je pourrais être jardin remarquable, par exemple, mais le ministère de la Culture, ils veulent qu'on soit ouvert plein de jours dans l'année, et ce n'est pas mon optique. Donc on a dit, bon, un week-end par mois, ça serait pas mal.
D'accord.
Et c'est sur on est parti sur ce pays-là dans les années 2000. Et bon, ceci dit, comme on a des groupes, des fois des gens qui viennent, bon, bah, on est ouvert à toute demande, il suffit de nous téléphoner pour qu'on ouvre. Hein. Mais ça reste quand même un jardin privé, voilà.
Et donc là, la mairie de Vénier, à l'heure actuelle, vous êtes sur signalétique, sur la communication.
Il n'y a pas de problème, j'ai acheté une pancarte. Par contre, on n'a pas de subvention, on n'en demande pas. Hein. On a acheté une pancarte qui se trouve en face de la poste de Vénier.
Oui.
Et j'ai demandé quand même qu'on y renforce une pancarte au niveau de l'entrée de la place, au niveau du boulanger. Parce que c'est vrai que souvent, les gens oublient de tourner et ils confondent quelquefois les croqueurs de pommes et l'arboretum.
Vous avez parlé tout à l'heure d'une association. Cette association, elle ne perçoit pas de subvention de la mairie de Vénier.
Ah non.
D'accord.
Oh non, on est autonome, complet.
Donc vous vivez sur les entrées.
C'est le prix des entrées qui justifie.
Donc 5 euros et gratuit pour les enfants, si je comprends.
Oui, voilà. C'est 5 euros, ce qui nous permet d'avoir un peu de matériel et puis d'acheter de l'essence pour la tondeuse ou 2-3 bricoles et puis d'avoir notre élagueur tous les ans. Bon, ça coûte quand même une certaine somme. Et là quand l'élagueur vient... J'invite des amis qui m'aident à transporter les branches.
D'accord.
Vous voyez, c'est plutôt un groupe d'amis qui m'aident.
Oui, je comprends bien. Et si on devait retenir un point commun à toutes ces plantes, tous ces arbres, tous ces végétaux, finalement, ce serait quoi ?
Moi, je pense que c'est dans un but esthétique que j'ai fait l'arboretum. J'ai pas aligné des arbres en mettant. Puis, alors, moi, j'aime bien aussi. Des arbres qui ont une histoire, ce qu'on appelle l'ethnobotanique. Donc je raconte souvent l'histoire des arbres, l'histoire de leur introduction. Bon, je vais vous faire raconter une petite histoire autour du robinier, qu'on appelle ici l'acacia, ouais. qui est un excellent bois pour faire des piquets. Beaucoup de gens croient que c'est un arbre du coin, hein, européen. En fait, c'est un arbre qui vient d'Amérique du Nord. Il fait des fleurs aussi qui sont intéressantes, qu'on peut manger en beignet. Il est intéressant pour les abeilles. Et il est introduit par M. Robin. Et en Europe continentale, le premier qui a été planté, il a été planté en 1602 à Paris, Square Viviani. Et il existe tout le temps. Donc j'explique ça aux gens. que bon, bah, la nature, tout ce qu'on a dans notre environnement n'est pas uniquement des plantes locales. Ce que les gens, des fois, reprochent un peu des introductions, c'est vrai qu'il y a des pestes végétales, comme on dit, mais l'homme a toujours introduit des plantes étrangères à leur milieu naturel. Hein. Ça commençait par le blé, il ne poussait pas de blé dans la forêt gauloise. Donc les hommes, pour se nourrir, pour beaucoup de choses, ont importé des plantes. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde végétal en général.
En général. Parce que vous avez tout à l'heure parlé d'un côté artistique, d'un côté esthétique. Est-ce que vous avez vraiment cette fibre-là et...
C'est surtout que j'ai fait composer un jardin pour l'automne. J'ai toujours été fasciné par les couleurs d'automne. Là, au mois de novembre dernier, je suis allé au Japon pour voir les érables. Donc moi, j'ai quantité d'érables japonais ici qui vont du jaune à l'orange au rouge. Donc l'arboretum s'embrase à l'automne. Et puis j'ai le ginkgo biloba, par exemple, qui a une belle couleur jaune. Il y a plein... J'ai des érables d'Amérique du Nord aussi. Et puis j'ai des arbres aussi qui sont intéressants pour leur écorce. J'ai un érable qui a une écorce qui s'en va en petit lambeau. Qui est brun cannelle.
Et à l'automne ?
Oui. Oh bah toute l'année. Les écorces, c'est intéressant parce qu'on peut voir, j'ai des bouleaux qui ont des écorces blanches, immaculées. Il y a plein d'arbres qui ont des écorces. Bon, y a aussi le palmier de Chine qu'on trouve à Vignier sur la place où il y a l'école maternelle. Ouais. Là. Bon, bah, c'est un arbre qui résiste à moins 20 degrés, qui pousse en Chine et qui s'appelle Trachycarpus fortunii. Là, c'est encore une histoire. Qui a été introduit par Robert Fortune, c'est un botaniste écossais, qui a été volé le Camellia sinensis au sud de la Chine, qui est l'arbre, c'est un camélia qui fait le thé. Le thé que vous consommez, ce sont des feuilles de camélia.
Donc finalement, votre jardin, votre parc est fait de tout plein de petites espèces qui viennent de partout dans le monde.
Quoi. Voilà. Alors certaines s'acclimatent, d'autres... C'est la nature du sol qui fait aussi que j'ai certaines variétés.
Et alors ce sol, en trois mots, ici ?
Alors, c'est un sol qu'on dit acide, c'est-à-dire qu'il n'est pas calcaire du tout. Donc mettons, si je mets des rhododendrons, ils vont pousser naturellement. Par contre, ça donne un choix de plantes important. Par contre, il ne retient pas tellement l'eau l'été. Donc, par exemple, les hydrangeas en Bretagne poussent bien, les hortensias.
Ouais.
Mais ici, il fait trop sec. Donc, j'évite d'arroser tout le temps. Donc, j'en mets pas parce qu'ils ne tiennent pas au sec. Vous voyez ? Donc, il faut que je m'adapte au sol. Ouais. Le sol permet d'avoir certaines plantes qu'on choisit.
Visiblement, un certain nombre quand même.
Il y a à peu près 1000 espèces d'arbres et arbustes, dont plus d'une centaine d'espèces de bambous. Un ami au Mans qui a 4 hectares, il a 3000 espèces. Alors, je ne fais pas le total des espèces.
Est-ce que ça veut dire que le sol au Mans est meilleur que celui...
Non, c'est parce que c'est un fou de plantes. Je laisse des espaces où il y a de la prairie, où il faut que la lumière pénètre dans les lieux, que ce ne soit pas une forêt ou une jungle. Les étangs aussi apportent de la lumière. Et puis l'intérêt des étangs, c'est qu'au niveau esthétique, à l'automne, on a des brumes matinales qui font des très beaux paysages.
Alors justement, ce côté esthétique...
Les brumes, ça me permet de mettre sur les étangs des installations artistiques. Donc je travaille, on a un collectif d'artistes qui sont plutôt du nord de la France, Amiens, Compiègne. On fait de l'art et dans la nature, ce qu'on appelle souvent land art.
Oui.
Hein, moi, j'appelle ça plus art environnemental. Et donc, je fais un choix d'artistes régionaux. Là, j'ai un Américain, par exemple, qui avait exposé avec moi dans une exposition qui s'appelle Étendard, qui est dans la forêt de Brocéliande, en Bretagne.
Oui.
C'est un jeu de mots, Étendard. Et il y a une dizaine d'artistes qui sont sélectionnés tous les 2 ans pour exposer. Alors moi, j'avais exposé avec mon ami Didier Ferment. Et j'avais rencontré cet Américain qui avait fait des coyotes. Et il ne les a pas ramenés aux États-Unis. Donc, il nous a donné l'autorisation de les exposer à l'arboretum. On les avait mis sur un arbre couché parce que ici, j'abats pas systématiquement les arbres. Donc, l'arbre s'était couché sur l'eau. Donc, on avait mis les coyotes sur l'eau. Ils étaient peints en rose fluo. Et là, on les a déplacés. Maintenant, ils sont blancs. Ils sont dans la forêt de bambou. Enfin, bon, j'avais invité Céline Turpin, par exemple, qui est céramiste à Tours, qui m'a fait des magnifiques... galets d'or en porcelaine qui sont suspendus dans les bambous. J'ai Yveline Boucard qui est de Tours qui a exposé. Lionel Tonda qui fait des sculptures en métal. Il a une grande sculpture à Saint-Albertin.
Chambord, là, ce qu'on voit au niveau du château de Chambord sur votre site.
Alors, au niveau du château de Chambord, c'est un travail que j'avais fait avec Didier Ferment. On avait posé des bâches sur l'herbe un mois avant. On les avait ôtées et ça avait fait des dessins de la déchlorophyllisation. Vous savez, c'est comme les tentes de camping. Quand on campe et qu'on reste 3 semaines au même endroit, quand on s'en va, il y a un carré blanc. L'herbe n'a pas eu... Alors, au niveau artistique, on a plein de possibilités.
Il y a plein de techniques
et ça, c'est Rendez-vous au Jardin qui... Tous les ans, il y a des artistes qui laissent leurs œuvres et puis il y a des nouveaux qui viennent en installer. Et mon travail, moi, c'est en rapport avec l'art et l'écologie, c'est je fais des tableaux avec le compost. Donc, faut voir.
Alors, c'est quoi ça, des tableaux avec le compost?
C'est-à-dire qu'il y a des vitres et on met les déchets ménagers, par exemple, les épluchures, la cendre, le café, et on fait comme un tableau. Il y en a un qui va être exposé à Tours, là, en septembre. Dans une librairie qui s'appelle Lire au Jardin. Oh, j'en ai exposé à Chaumont, il m'en avait acheté un à Chaumont. J'en ai exposé en Belgique. Là, je vais en mettre au CERF du Sénat à Paris. Donc, c'est surtout un art un peu militant. On fait de l'esthétique avec les déchets. Et tout revient à la terre, c'est le cycle de la vie. Et moi, je prends toujours le propos du Jacques Prévert qui avait dit « Mangez sur l'herbe, dépêchez-vous. Un jour ou l'autre, l'herbe mangera sur vous. » Et bon, c'est un peu le cycle de la vie et qui est exploité au niveau artistique. Et alors, fait des sépultures pour des arbres aussi. Enfin, bon.
Et finalement, vous êtes plus le jardinier botaniste ou plus artiste?
Artiste botaniste, disons.
Non, vous êtes à la limite entre les deux, quoi.
Oui, oui. Oh, oui, c'est toujours un briquet.
Donc, dans votre jardin, des fois, vous vous dites je vais tailler cet arbre-là plus comme ça et celui-là, je vais le laisser déborder pour vous arriver
à trouver. Puis j'ai des amis, mettons, comme Jacques Aurode, là, qui habite Sorigny, et qui s'est inspiré des tableaux de composteur pour faire des tableaux de papier entre deux vitres, et où il a fait des formes qui ressemblent au bambou aussi. Bon, c'est l'occasion pour les artistes de s'inspirer du lieu ou de certaines idées. Lionel Tonda m'a fait un tableau composteur à sa manière. Enfin bon, c'est un jeu entre nous, une façon d'exprimer ou faire des expériences.
Et est-ce que vous avez d'autres artistes, peut-être des poètes, des paroliers qui viennent justement pour s'inspirer du cadre?
Oui, ça arrive. J'ai un projet là avec Touraine Vietnam, de faire venir des Vietnamiens qui dansent avec des bambous. Je m'intéresse pas mal à la musique aussi, donc j'ai des collections d'instruments de musique en bambou. Et j'ai un joueur de shakuhachi, c'est une flûte en bambou japonaise, qui devrait venir montrer ses talents à l'Arboretum, parce que c'est un ami de quelqu'un de Vénier, c'est vraiment un maître du shakuhachi, qui est européen, qui est parisien. Mais on est ouvert, j'ai peut-être des Japonais qui vont venir. Des fois, je fais des stages aussi. Que je voudrais inviter Mao, qui fait des poissons, des carpes koi, il y a des techniques. Donc on fera peut-être un stage où j'informerai les gens. Et moi, je fais des techniques de peinture à langue de Chine. Donc j'apprends aux gens de peindre des bambous à langue de Chine. D'accord. Donc j'ai déjà fait un stage, j'en ferai certainement d'autres.
Michel Davaux, merci beaucoup. On va quand même rappeler les moyens pour justement se tenir au courant de tout ce que vous faites ici à l'Arboretum. Vous me disiez 1500 visiteurs par an, c'est quand même pas rien. Donc si vous voulez redonner vos coordonnées
Alors c'est l'Arboretum de la Martinière, on a un numéro, avant on n'en avait pas, c'est 87 rue du Lavoir. On a un blog qui s'appelle Arboretum Vénier. Alors évidemment, il n'y a pas d'accent, d'un seul tenant. Haut et fort, comme la hauteur et la force.com. Enfin, il y a point après Arboretum Vénier. Et puis aussi, il y a mon numéro de téléphone que vous pouvez...
06 81 53 35 52.
Donc vous pouvez laisser un message ou pour demander un rendez-vous. Si vous avez un petit groupe d'amis ou un instituteur qui veut faire quelque chose avec moi, il y a Anne Champigny qui est responsable des actions pédagogiques dans l'académie, des fois qui m'oriente des instituteurs pour faire quelque chose à l'arboretum.
Voilà, donc il est possible de voir ça à la demande directement auprès de Michel Davot. Eh ben, merci beaucoup. Donc, c'était Emmenez-moi à l'arboretum de la Martinière à Vaigné pour cette émission sur le patrimoine de la CCVI. Merci.
Eh bien, je vous remercie, vous aussi.
À
et
bientôt.
Puis, bonne chance à votre radio.
Le patrimoine et la culture ne pouvant pas parler d'eux-mêmes, il faut un intervenant.
En gros, à cette époque, la France est morcelée entre plusieurs seigneurs.
Dès le premier millénaire, on va parler de Candé, mais dans des dialectes différents. Hein. Les Celtes, les Latins parlent de Condat, Condatum, Condéium.
Au-dessus du château d'Avre, là, on a suffisamment maintenant d'éléments pour voir qu'on a un habitat dans ce qui...
Disons qu'avant la Révolution, on comptait trois chapelles dans la commune.